les demandes de Dieu sur la vie de Jérémie. Jérémie chapitre 16, pendant que vous y tournez, dans Jérémie chapitre 16, eh bien, quand on pense aux demandes de Dieu sur la vie de Jérémie, vous allez voir, ce n'était pas gai, mais ce n'était pas pour toujours non plus. C'était pour cette vie ne dure pas longtemps. Le meilleur est à venir quand on croit en lui. C'est la nature de la foi. On lui fait confiance que là, il nous sauve et il nous appelle à le suivre, renoncer à soi-même, renoncer à nos ambitions. Mais il nous réserve une joie éternelle où il n'y a plus de tromperie, plus d'injustice, plus de perversion, plus de maladie, plus de tristesse, juste la joie d'être avec aussi ceux aussi que Dieu a sauvés et avec notre Sauveur si merveilleux et une éternité. Il n'y aura pas de fin, il n'y aura pas de vieillissement, il n'y aura pas de nuit, il n'y aura pas d'orage, de tempête, il n'y aura pas de moustique. Mais pour l'instant, Jérémie chapitre 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme. Tu n'auras dans ce lieu ni fils, ni fille. Car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantées et sur leurs pères qui les auront engendrées dans ce pays. Ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes ni sépulture, ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Car ainsi parle l'Éternel, n'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pour pleurer, n'y va pas te lamenter avec eux, car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. Grands et petits mourront dans ce pays, on ne leur donnera point de sépulture, on ne les pleurera point, on ne se fera point d'incision, l'on ne se rasera pas pour eux et on ne rompra pas le pain dans le deuil pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort. Et l'on n'offrira pas la coupe de consolation pour un père ou pour une mère. N'entre pas non plus dans une maison de festin pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je fais cesser dans ce lieu sous vos yeux et de vos jours les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Et on voit, quel péché avons-nous commis contre l'Éternel, notre Dieu? Et on va poursuivre la lecture tout à l'heure, on va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Seigneur Dieu, ces choses sont arrivées il y a bien longtemps, mais elles sont bien arrivées à une génération bien vivante, qui vivait à tous les jours comme nous, qui avait des fêtes, qui avait des mariages, qui avait des deuils, des funérailles, et qui vivait. Mais Seigneur Dieu, c'est toi qui a envoyé le jugement pour en finir avec cette génération. Seigneur, tu nous avertis aussi que cette génération, celles qui suivent, à un moment donné, ce sera la fin, ce sera le jugement, ce sera le grand trône blanc, ce sera la seconde mort, l'éternité séparée de toi, à moins qu'on te prenne comme refuge, à moins qu'on se repente et qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jérémie avait cru en toi et vivait pour toi, et aide-nous de comprendre maintenant ce que tu dis à Jérémie, Et aide-nous d'en faire application aussi à notre vie, selon tes principes du Nouveau Testament. Seigneur, on te prie. Aide-moi de bien communiquer droitement ta parole. On te prie au nom de Jésus. Pas de social, hein? Pas de mariage, pas de famille. C'est pas souvent que Dieu appelle ses serviteurs à une vie de célibat. Ça peut arriver. Dieu peut nous donner le don du célibat ou il peut nous donner le don du mariage. Il y en a beaucoup qui prennent le mariage, pas comme un don, simplement ils vont se marier, peu importe ce que Dieu veut. Mais quand on cherche la volonté de Dieu, pour la plupart de ses enfants, Dieu, c'est lui qui donne le mariage, c'est lui qui donne une épouse, c'est lui qui donne un époux. C'est lui aussi qui peut donner le don du célibat. Et à Jérémie, il lui dit, Jérémie, tu vas rester célibataire. Tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas avoir une épouse, tu ne vas pas avoir d'enfant. Donc. Je sais que l'équation, pas de mariage, pas de famille, elle n'est pas faite ici-bas, dans cette société ici dans laquelle nous vivons, parce que dans notre société, avoir une famille et ensuite peut-être se considérer se marier, c'est comme deux choses différentes, mais ça ne devrait pas être. Dieu dit que le mariage doit être honoré, que tous honorent le mariage, que le mariage soit honoré de tous, Hébreux 13, 4. Car Dieu jugera, et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les adultères et les débauchés. Dans notre société, hein, les gens ont les enfants, même sans être mariés. Mais à ce moment ici, Jérémie, Dieu lui commande clairement, tu n'auras pas d'épouse. Et donc, Jérémie, tu n'auras pas d'enfant. Tu n'auras pas d'épouse, laquelle, donc tu auras un fils ou une fille, tu vas rester seul. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup de tristesse de voir son époux, ses enfants mourir, parce que la fin vient bientôt pour cette génération. Ensuite, il dit pas de deuil, pas de sympathie, pas de mariage, pas de famille, pas de deuil, pas de sympathie. Ça, c'est la moindre des choses. La moindre des choses, normalement, c'est démontrer un signe sympathie. Quand un de nos amis, quand une personne dans la famille, quand quelqu'un qu'on connaît perd un être bien-aimé, c'est la moindre des choses qu'on va et qu'on démontre notre sympathie, nos condoléances, pleurer avec ceux qui pleurent, normalement c'est ce que Dieu veut. Mais ici, dans ce cas-ci, Jérémie, non, Jérémie, quand tes amis vont te dire « j'ai perdu mon père est décédé cette semaine, les funérailles vont être tel jour », et quand ils t'invitent, quand ils te le disent, et que tu ne te montres pas ensuite, puis qu'ils te reviennent te voir, puis tu te demandes, mais Jérémie, pourquoi tu n'es pas venu au funérailles? Je ne comprends pas, Jérémie. Et Jérémie qui dit, mais c'est Dieu qui me l'a commandé de ne plus aller au funérailles, de ne plus avoir de deuil, de ne plus démontrer de sympathie. Pourquoi? Parce que voici, la grande ruine va arriver. Et avec cette grande ruine, les gens vont mourir tellement et il n'y aura même plus de temps pour faire de funérailles. Et ça va être la désolation comme vous n'aurez jamais vu. Et personne n'aura le temps de faire quoi que ce soit comme démonstration de sympathie à l'autre. Plus de deuil. Et Dieu voulait donc, et Dieu m'a dit, Jérémie, pas de deuil, pas de sympathie. Et Dieu va un pas plus loin. Pas de fête! Pas de party. Jérémie, quand tu es invité à une fête d'anniversaire. Jérémie, quand tu es invité à un mariage. Jérémie, tu n'iras pas à aucune fête. Plus de fêtes. Les fêtes, ça fait partie de notre quotidien. Ce n'est pas tous les jours qu'on fête. Mais régulièrement, on passe par McDonald's et on voit, ah, tiens, ils célèbrent l'anniversaire là-dedans. On va un peu plus loin, il y a des autos qui se suivent avec des fleurs dessus, puis là, ils klaxonnent, puis là, c'est le mariage, puis là, c'est la fête. Jérémie, quand il était invité, a donc, à partir de ce moment-là, non, désolé. Non, désolé, je ne peux pas aller à votre mariage, je ne peux pas célébrer cela, je ne peux pas aller à ta fête d'anniversaire, je ne peux pas aller au l'anniversaire de mariage de 50 ans. Je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que c'est la fin. Vous ne savez pas à quel point vous êtes proche, mais c'est la fin. Une grosse armée des gens en route, ça va être la désolation. Ce n'est pas le temps de se réjouir. C'est le temps de se repentir, de se tourner envers Dieu, de porter attention à qui Dieu est. Ce n'est pas le temps. Et Jérémie devait leur donner le message. Dieu a attiré leur attention parce qu'il a demandé à Jérémie. Et Jérémie devait dire, et on sait qu'il l'a dit, parce qu'à verset 19, on ne l'a pas encore lu, « Éternel, ma force et mon appui. » Jérémie a obéi. Pas contre le cœur. Jérémie n'est pas encore, « Oh, j'aimerais tellement avoir une épouse, oh là, oh, j'aimerais avoir des enfants, oh, j'aimerais pouvoir démontrer mes sympathies, j'aimerais pouvoir... » Non, il était triste, on sait qu'il était triste, mais de quoi est-ce qu'il était triste? Il était triste que les gens refusent de se repentir et se tourner vers Dieu, puis ils continuent à suivre les penchants de leur cœur, et ils s'attirent un jugement incroyable qui s'était accumulé par la patience de Dieu depuis longtemps, parce que Dieu avait accumulé avec cette patience, il avait donné occasion et occasion, il retenait son jugement pour longtemps pour donner... encore plus d'avertissements, encore plus d'avertissements. Oh, avertis-les encore. Et là, c'était, ils n'ont jamais écouté. Jérémie était triste de cela, on l'a vu la semaine dernière, il pleurait. C'était le prophète pleureur, comme on peut dire. Mais il ne pleurait pas sur le sacrifice que lui pouvait faire pour son Dieu. Jérémie avait choisi de mettre sa confiance en Dieu, qu'il est bon. Il vaut la peine de le servir. Et il n'y a pas de joie de ce monde qui dépasse la joie de servir Dieu. Vous savez, Dieu nous a donné des papilles gustatives pour apprécier les bonnes choses. C'est pour ça que dans la fête, aux fêtes, est-ce que vous avez déjà été à une fête où vous n'avez pas rien mangé? Avez-vous été à une fête où il n'y avait aucune nourriture? Ok, mais pour moi rare. La plupart des fêtes qu'on va, on apprécie les bonnes nourritures. Eh bien, Dieu nous a donné aussi d'autres manières de ressentir beaucoup de plaisir. Dans le mariage, quand c'est bien, ben, il y a beaucoup de plaisir. Ces plaisirs-là ne sont pas l'ultime. Et Jérémie savait qu'il pouvait faire confiance à Dieu, que quand il lui disait non, pas de mariage, pas de famille, pas de deuil, pas de sympathie, pas de fête, pas de partie, ça ne changeait pas le fait que Dieu était bon, Dieu était juste, Dieu était tout puissant, Dieu savait où ce qu'il s'en allait, et Dieu avait un bon plan. Et que dans ce qu'il lui demandait, il y avait un bon but. Et ce bon but, ça s'est accompli quand les gens remarquent, tiens, pourquoi l'annonce de la très grande désolation? Pourquoi est-ce qu'il y a cette désolation qui s'en vient? Là, on va continuer à lire. On va reprendre à verset 10. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel, notre Dieu? Vous rappelez-vous le chapitre dernier, au chapitre 15, la semaine dernière? On a vu deux exemples de prières de repentance. De très belles prières. Une formalité que Dieu n'a pas voulu écouter. Parce que justement, il n'avait pas un chacun vraiment changé. Il faisait tout pour que ça soit bien mis, les points sur les i étaient bien comme il faut, mais le cœur n'était pas. Ils allaient continuer à trouver une manière de suivre les penchants de leur propre cœur. Mais là, vous remarquez maintenant, quel péché qu'on a fait. Vous savez, quand on n'est pas honnête devant Dieu, à prier les belles prières qui ne sont pas vraiment sincères, on n'est pas aussi non plus sincère à être franc, à savoir qu'est-ce qu'on devrait savoir. On joue l'innocent. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je
pouvez pas parler comme ça.
Hein? On sait qu'au fond, la parole était blessante, mais on trouve une manière de penser que c'était justifié. On se donne des défaites, et on les voit ici, là. Mais quel est notre péché? Quelle est notre iniquité? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux. Ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont point observé ma loi. Là, vous pourrez penser, ok, mais pourquoi est-ce qu'ils adressent leur père? Oui, leur père avait péché. Mais ensuite, Dieu dit, et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Quand Dieu a dit plusieurs fois, à cause de Manassé, tous les crimes, tous les meurtres, toute la violence, toute l'idolâtrie que Manassé faisait, Manassé, à la fin de sa vie, s'était repenti. Mais Dieu avait décrété le jugement quand même contre Israël. Pourquoi? Les autres ont pris ce que Manassé a fait et l'ont multiplié, ils l'ont amplifié. Voici verset 12, la deuxième partie. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur. Voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur pour ne point m'écouter. Et Dieu, il le résume. Vous faites comme vous voulez. Et ce que vous voulez n'est pas bon. Vous avez un cœur mauvais. Vous suivez les penchants de votre mauvais cœur pour ne point m'écouter. Dieu a permis que dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui nous illustrent comment Dieu est. Et Dieu a mis dans les parents un amour naturel pour leurs enfants. Un amour naturel qui fait qu'on dise à un enfant de 5 ans, « Non, tu ne peux pas jouer au milieu de la rue. Désolé, mais ce n'est pas une bonne place. Non, je t'aime et tu ne joueras pas au milieu de la rue. » Pour ton propre bien. Et quand l'enfant ne veut pas écouter, vous vous imaginez l'accident qui se prépare si l'enfant tient mordicus à jouer au milieu de la rue. Et il va trouver une manière. Et vous comprenez ce que Dieu disait. Vous suivez les penchants de votre mauvais cœur pour ne pas m'écouter. Vous voyez l'amour de Dieu, le Créateur, comme un père qui veut s'occuper de son peuple. Et ce qu'il dit, c'est pour leur bien. Et eux, non, écoutez. De faire à notre tête et qui se prépare donc un accident et des mauvaises choses. Verset 13, il dit, je vous transporterai de ce pays dans un pays que vous n'avez point connu, ni vos pères, ni vous, ni vos pères, et là, vous servirez les autres dieux jour et nuit, car je ne vous accorderai point de grâce. Autrement dit, vous êtes tellement en amour avec les païens et leurs idoles, vous voulez avoir les idoles des païens autour de vous, ben vous allez y aller. Et vous allez avoir leurs idoles. C'est un peu quasiment comme un abandon à leur propre vie. Vous voulez ça, ben vous allez l'avoir. Et vous allez être malheureux. Mais dans tout cela, Dieu, dans sa grâce, leur rappelle que ce n'est pas le dernier. Parce que chapitre 16, verset 14, il leur dit, c'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion, et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Oh, Dieu a un plan. Oui, ça va passer par un très gros châtiment, le jugement de cette génération-là, mais ce ne sera pas la fin d'Israël. Dieu va ramener en temps et temps. Vous savez, Israël était défini depuis longtemps le peuple que Dieu a fait sortir d'Égypte. Le peuple que Dieu a délivré d'esclavage d'Égypte. Le peuple d'Israël est devenu le peuple de Dieu à la sortie d'Égypte. Ils ont fait alliance avec Dieu. Et Dieu, c'est toujours donc... Il avait toujours comme titre celui qui les avait délivrés de l'esclavage, celui qui les a fait sortir d'Égypte. Et là, Dieu dit, là, on ne dira plus cela. parce que ça ne sera plus la dernière chose. On dira plutôt, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion. Vous étiez en Égypte esclave? Là, bientôt, vous allez être dans le nord, en septentrion esclave. Vous allez être au-delà du nord, vous allez être un peu partout esclave. Vous allez avoir été chassé de votre pays. Mais je vais vous ramener. Dieu a un plan pour Israël, il va tenir promesse un jour. Et ça, c'est une illustration et une image que quand on se convertit à lui puis qu'on devient son enfant, on peut passer par des périodes où on est rebelle, où on s'entête, où on ne veut pas vraiment servir, où on veut avoir l'amour du monde. Et Dieu, dans sa grâce, il va châtier, comme il avait châtié David le roi. Mais Dieu va toujours ramener. Dieu était fidèle à son peuple. Il a fait alliance formellement. On sait que son peuple, c'était multigénérationnel. La génération de Jérémie allait être perdue, mais Israël allait continuer en tant que peuple et Dieu va les ramener un jour. Dieu est fidèle à ses promesses. Le salut dépend entièrement de la fidélité de Dieu. Mais là, il y a aussi une autre image au niveau personnel. Au niveau personnel, ils devaient se repentir de leurs péchés puis éviter le jugement. Et ça, c'est une image du jugement dernier. Ce n'est pas une image que si on ne se convertit pas de notre vivant, Dieu il va nous châtier ensuite pour nous ramener après la mort, on aura l'occasion de revenir à Dieu. Ça, c'est une fausse doctrine. Dieu ne dit jamais qu'il y ait possibilité de se repentir après sa mort. Il dit formellement, Hébreux 9, 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» De même, Jésus qui est mort une fois pour toutes, il reviendra une deuxième fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, Dieu nous dit, c'est de notre vivant qu'on doit se tourner à lui pour le salut. Tout de suite, après avoir donné cette petite clause de 14 et 15, il retourne à l'annonce du jugement. « Voici, j'envoie une multitude de pécheurs, verset 16, dit l'Éternel, et ils les pécheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront. » De toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers. Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies, elles ne sont point cachées devant ma face et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de leur péché parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations. Vous savez, on passe souvent sur le pont de Cayenne, de la rivière de Cayenne, et la plupart du temps, il y a des pêcheurs. Tout à l'heure, en passant, j'en ai vu un qui remontait son fil, gros poisson. Et Dieu dit, je vais envoyer une multitude de pêcheurs. Vous n'aurez pas de chance. Imaginez-vous s'il y avait des ponts à tous les 10 mètres, et des personnes tout le long des ponts, et tout le monde avec leur fil, pauvre poisson, il n'y a pas grand-chose de ne pas être retrouvé. Là, c'est l'image que Dieu dit. Et là, ensuite, il parle de la chasse. Là, la Guyane est grande, la forêt est grande. Mais imaginez-vous qu'on soit 10 chasseurs pour les quelques petits arbres qu'il y a là. Et qu'il y a des singes là-dedans avec 10, 15, 20 chasseurs. Pauvres singes, il n'y a aucune chance. C'est l'image que Dieu nous donne. Après ça, j'enverrai une multitude de chasseurs. Ils les chasseront de toutes les montagnes, de toutes les collines et des fentes des rochers. Ils vont être tellement, vous n'aurez pas une chance. Ils vont vous retrouver. Vous savez, Dieu lui dit, sachez que votre péché vous retrouvera. On ne peut pas se cacher de nos péchés. On ne peut pas cacher nos péchés et puis les faire qu'ils vont être oubliés. Dieu dit, ses yeux sont attentifs à toutes leurs voies, ne sont point cachés devant sa face et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Avez-vous déjà lu des histoires d'un meurtrier qui il a réussi à fuir, puis là il habite quelque part loin. Il sait que la justice va finir par le retrouver. Et là, dans la vieillesse de sa vie, finalement, il entend toquer à la porte. Il n'est pas surpris. Il sait que la justice va être vue. Dieu donne beaucoup d'exemples de cela. Et même si, humainement parlant, on peut ne pas avoir été retrouvé par la justice humaine, Dieu nous dit que nos péchés nous retrouveront. Il n'y a aucun de nos péchés qui ne nous rattrapera pas. Tous nos péchés, Dieu va en tenir compte. Et c'est pourquoi Dieu veut qu'on s'en détourne et qu'on se tourne à Jésus-Christ dans la repentance et la foi. Quand il dit « Je leur donnerai d'abord le double de leur péché ». C'est une expression en hébreu. Vous savez, en hébreu, il y a deux manières de faire le pluriel. Il y a le pluriel de deux, et ensuite le pluriel de deux ou plus, là, trois, etc. Et nous, en français, on n'arrive pas à s'imaginer ça, parce que le pluriel, c'est n'importe quoi qui est au-dessus de un. Bon, en hébreu, ils ont plusieurs formes. Ils ont le forme pour le singulier, ils ont le forme pour le duel, le dual, le deux, et le forme ensuite, pluriel général, là, n'importe quoi au-dessus de deux. Ce n'est pas certain exactement dans quel sens, ici il parle, parce que ce n'est pas la seule place que dans la Bible, il dit il va donner le double de ses péchés. Soit que ça veut dire d'une manière complète, il y en a d'autres, les grammairiens hébreux, qui disent, ça se peut que c'était une expression qui voulait dire là, comme l'équivalent. C'était comme, tu sais, c'est comme une image, là, quelque chose qui est... toujours en double, c'est comme ça, c'est l'équivalent de ça, c'est toujours en double. C'est un peu cette idée-là. Et ce n'est pas au sens que Dieu va multiplier injustement la punition comparée à ce qu'on a fait, ce n'est pas dans ce sens-là. On sait que ce n'est pas dans ce sens-là parce que Dieu est un Dieu qui est juste et qui est déclaré juste à travers toute la Bible. Mais quand il dit d'une manière répétitive, il va donner au double de vos péchés, je pense... C'est probablement le sens, c'était comme une expression, qu'il va donner l'équivalent. Il n'en manquera pas. Tout ce que vous avez fait, demain, va trouver la justice, va trouver la conséquence. Il n'en manquera pas. Dieu s'assure que tout ce que va faire quelqu'un, il va être jugé pour, à moins qu'il accepte le jugement que Jésus-Christ a fait à sa place. Et c'est ça qui est beau, qu'on va se rappeler tout à l'heure, la mort de Jésus-Christ, qu'on va prendre ce mémorial pour se rappeler de la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris l'équivalent de la justice que nous méritons. Il a subi la mort, il a subi la colère de Dieu, il a subi Dieu qui détourne de lui sa face, il a subi tout ce que nous avons mérité. Nous, si on l'aurait eu, on n'aurait pas pu s'en sortir. Lui, il a pu vaincre la mort parce qu'il ne devait rien à mort, donc il a pu ressusciter après. Nous, si on serait mort, on resterait mort. Pour nous, cette punition n'aurait pas de fin. Mais Jésus-Christ a subi l'équivalent de ce que nous avons mérité. Mais si on ne s'en prévaloit pas, Dieu ne va rien oublier au jugement dernier. On va être jugé selon nos œuvres. Alors Dieu avertit encore. Avertit encore toujours. Là, on tombe sur versets 19, 20, 21, les derniers versets qu'il nous reste à lire. « Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse, les nations viendront à toi des extrémités de la terre. Et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge, de vaines idoles qui ne servent à rien. L'homme peut-il se faire des dieux qui ne sont pas des dieux ?» Ça, c'est les païens. Et les païens, ils ont toutes sortes de traditions autour du monde. Hein. Toutes sortes de formes d'idolâtrie. Toutes sortes de formes de paganisme et de religion. Et Dieu dit que dans son jugement pour son peuple, le témoignage ira qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui vaut la peine de servir. Et les nations donc viendront un jour... se détournant de leurs idoles pour se tourner au vrai Dieu. C'est pourquoi, verset 21, « Voici, je leur fais connaître cette foi, je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. » Et réellement, il n'est pas clair, verset 21, s'il parle de son peuple Israël ou des nations. Mais vraiment, est-ce qu'on a vraiment besoin de, de décortiquer cela parce que les deux vont avoir ce témoignage que Dieu est le seul vrai Dieu, que Dieu est puissant, que Dieu est fort, que Dieu est le seul qui existe, que Dieu est bon et il vaut la peine, que le nom de l'Éternel, le nom du Dieu vivant, c'est l'Éternel, celui qui est. Est-ce que vous connaissez personnellement le Dieu qui est? Est-ce que vous vous êtes détourné des penchants de votre mauvais cœur? Est-ce que vous vous êtes tourné vers lui réellement? Est-ce que vous êtes prêt à le servir comme son enfant, comme son disciple, comme Jérémie, être prêt à faire sa volonté, que ce soit qu'il vous appelle au célibat, que ce soit qu'il vous appelle à ne pas aller à certaines fêtes, etc. Vous êtes prêt et vous voulez le suivre parce qu'il est un Dieu qui vaut la peine d'être suivi. Il n'y a que lui qui est le vrai. Et tout le reste, c'est de l'idolâtrie, c'est de l'imagination. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ce chapitre 16 de Jérémie. Seigneur, on te prie que tu puisses toucher le cœur de chacun, Seigneur, selon le besoin de chacun, que ce soit pour le salut vraiment, Seigneur Dieu, on te prie, ou que ce puisse être l'affermissement à grandir et à croître pour toi, et à te servir, et à renoncer à sa propre voie et à ses propres désirs d'être prêt à faire ta volonté, peu importe les choses que tu nous demandes de renoncer, auxquelles tu nous demandes de renoncer. Mais Seigneur, on te prie que tu puisses toucher le cœur de chacun ici, qu'il puisse appliquer, mettre en application ta parole, Seigneur. Tu ne peux pas juste écouter et puis laisser les paroles tomber à terre en sortant d'ici, on te prie. Au nom de Jésus. Amen.